Vous écoutez France Culture.
C'est l'heure du journal de la rédaction. Bonjour Ézéchiel Fernandez.
Bonjour Romain, bonjour à tous. Les créations d'emplois salariés stagnent en France au deuxième trimestre. La plus faible progression depuis 3 ans, plus 0,2%, analyse signée Laura Dulieu. Une casserole de plus traînée par l'affaire Benalla dans le monde des réseaux sociaux. Cette fois-ci, un soupçon de fichage politique d'internautes. La CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, s'est saisie du dossier, nous dira Anne Fauquemberg. La Russie a-t-elle les moyens de répliquer à la deuxième vague de sanctions économiques américaines? Dmitri Medvedev, le Premier ministre, tempête, mais la réalité de la situation économique pourrait rattraper la Russie. En fin de journal, l'histoire de trésors archéologiques irakiens restitués aujourd'hui même à l'Irak après avoir dormi 15 ans durant dans des tiroirs de la police britannique. Et puis au sommaire avec vous, Romain de Bec-de-Lièvre de la Grande Table d'été.
En première partie, on parle de l'abondance d'expositions Picasso cet été et en seconde partie, un portrait de la flûtiste Naïssam Jalal.
On vous retrouve à 12h45. Les indices économiques en France se suivent et se ressemblent. Ceux de l'emploi dans le secteur privé, publié ce matin, affichent un frémissement, plus 0,2% au deuxième trimestre. Exactement la même toute petite progression que celle de la croissance. Si l'on considère le verre à moitié plein, c'est le 13e trimestre consécutif de hausse de l'emploi salarié privé dans notre pays. Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
Mais si l'on considère le verre à moitié vide, on assiste à un essoufflement.
Oui, c'est vrai. Malgré une progression de 1,3% sur 12 mois, plus de 241 000 emplois créés. Tous ces chiffres semblent positifs, mais pourtant, la tendance est au ralentissement pour l'emploi salarié. Une hausse de 0,6% avait été enregistrée au dernier trimestre 2017, bien supérieure donc aux 0,2% de ces deux derniers trimestres. Même chose pour les chiffres sur 12 mois. Ils étaient bien meilleurs fin mars et surtout fin décembre 2017, où plus de 354 000 créations nettes d'emplois salariés avaient été enregistrées sur un an. Plus globalement, alors que seuls 31 000 emplois ont été créés ce trimestre, les effectifs des entreprises augmentaient en moyenne de près de 90 000 salariés chaque trimestre en 2017. Dans le détail, ce sont les services marchands qui concentrent la plus grosse partie des créations d'emplois. Le secteur de la construction, lui, est plutôt stable après une baisse fin 2017 et l'intérim enregistre sa plus faible hausse depuis 2014. L'industrie, quant à elle, détruit des emplois, 3 800 en moins, même si les usines ont amorcé une reprise depuis un an, elles restent très fragiles. Alors tout ce ralentissement de l'emploi devrait se poursuivre encore, notamment à cause de la croissance qui faiblit. Et à la fin, c'est bien la baisse du chômage qui devrait en pâtir. Les organismes de prévision estiment qu'il baissera jusqu'à 8,8% de la population active d'ici la fin de l'année. Mais cette projection se basait sur une prévision de croissance plus forte qu'elle n'a été au deuxième trimestre. Pas sûr donc qu'on arrive à ce niveau. On aura des éléments de réponse mardi avec la publication par l'INSEE du taux de chômage au deuxième trimestre.
Merci beaucoup Laura Dulieu pour toutes ces précisions. C'est le tout dernier rebondissement, plutôt inattendu d'ailleurs, dans l'affaire Benalla et ce qu'elle a suscité sur les réseaux sociaux. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a reçu en effet une centaine de plaintes au sujet d'une étude réalisée par une organisation de lutte contre la désinformation. Il s'agit d'une ONG belge Disinfo Lab, une organisation qui cherchait en fait à l'origine à déterminer s'il y avait ou non une ingérence russe afin d'amplifier l'impact de l'affaire Benalla sur Twitter. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Alors ce qui pose problème aux plaignants, ce n'est pas tant cette affaire d'ingérence russe qui s'est dégonflée d'ailleurs depuis, mais la divulgation sur Internet de fichiers qui recensent la sensibilité politique de milliers d'internautes.
Et stupide barbouze, je ne suis pas un bot russe, c'est juste moi, Mélenchon, qui tweete contre toi. Si t'as besoin de me ficher pour t'en rappeler, c'est que tu es encore plus bête que tu en as l'air, signé matricule 14452, tweet vénéneux de Jean-Luc Mélenchon la nuit dernière au sujet donc de ces fichiers de données brutes qui sont au cœur d'une nouvelle polémique autour de cette étude. Ici, on parle de 3 fichiers. Le premier, c'est une liste de 55 000 noms qui ont tweeté sur l'affaire Benalla. Le second concerne environ 4000 personnes qui ont été hyperactifs, mais aussi l'intérêt pour des contenus diffusés par Spoutnik ou encore RT, qui sont des médias pro-russes. Et puis, il y a un troisième fichier qui a été brièvement mis en ligne, retiré ensuite et qui classait les comptes Twitter en fonction de leur appartenance à une communauté politique. Sur leur compte Twitter, les membres de l'ONG Disinfolab rejettent les accusations de fichage. Ils expliquent que ces données ont été publiées à des fins de transparence. Nous ne réalisons pas de fichage, mais nous comprenons que cela puisse être interprété comme tel. Les internautes ne sont pas du tout de cet avis. Ils réagissent nombreux sur la toile. Le compte Mauvais Coton, par exemple, a même mis en ligne sa plainte déposée la nuit dernière à la CNIL. La CNIL qui va se saisir donc de cette affaire via le nouveau règlement européen sur les données personnelles. Par ailleurs, l'article 8 de la loi Informatique et Liberté interdit le traitement de données personnelles qui révèlent les opinions politiques. Et si les tweets sont publics, c'est leur exégèse et la classification qui en découle qui pose question. C'est ce que rappelle le spécialiste du sujet chez Télérama, Olivier Tesquet.
Merci beaucoup Anne Fauquemberg. Et donc la morale de l'histoire, c'est que rien ne passe inaperçu, y compris sur les réseaux sociaux. La Russie à l'épreuve des sanctions américaines. Ce matin, le Premier ministre Dmitri Medvedev a déclaré que Moscou considérera comme une déclaration de guerre économique l'éventuelle adoption d'une deuxième salve de sanctions et y réagira avec tous les moyens à sa disposition. Sanctions liées, vous le savez, à l'empoisonnement d'un espion russe au Royaume-Uni. Et Dmitri Medvedev d'ajouter que la Russie est prête à répondre à cette guerre par des méthodes économiques, politiques et si nécessaire par d'autres moyens. Alors question, a-t-elle justement les moyens de supporter ces sanctions, la Russie, et a fortiori de répliquer alors que les voyants économiques sont au vert depuis 2016? Question posée par Mathieu Laurent à Julien Vercueil, professeur d'économie à l'INALCO.
Cette embellie semble assez solide, assez générale et repose également sur une demande relativement dynamique. Donc pour répondre à la question de savoir si elle est en mesure de faire face à une nouvelle salve de sanctions, il faut prendre en compte deux paramètres fondamentaux. Le premier, c'est les cours du pétrole qui sont relativement élevés aujourd'hui et qui, s'ils devaient se maintenir pendant la période de nouvelles sanctions, serviraient de ressources pour l'économie de la Russie pour y faire face, en particulier de ressources financières, mais également de ressources pour l'investissement. Et le deuxième, c'est évidemment l'ampleur et la profondeur des sanctions américaines qui, elles, ne sont pour l'instant pas totalement déterminées. On ne sait pas si elles vont toucher le secteur de l'émission de bons du trésor russe ou si elles vont toucher le secteur énergétique et en particulier le secteur gazier.
En l'état, quels sont les points de fragilité de l'économie russe ?
Le point de fragilité structurelle, c'est l'excessive polarisation de l'économie de la Russie sur un petit nombre de secteurs, le secteur des matières premières en particulier, mais également le rôle important du secteur financier dans le recyclage de la rente pétrolière et pétrogazière qui contribue à concentrer les ressources sur un petit nombre d'acteurs économiques. Et lorsque ce petit nombre d'acteurs économiques est touché par soit une chute des prix du pétrole, soit la restriction de leurs activités de recyclage de cette rente, par exemple, eh bien forcément, ça a des répercussions plus que proportionnelles sur l'ensemble de l'économie. C'est-à-dire que la principale fragilité structurelle de l'économie de la Russie, c'est qu'elle n'est pas suffisamment diversifiée d'un point de vue industriel.
Est-ce que l'économie russe, est-ce que la Russie a les moyens de riposter, comme elle prétend le faire ?
Aujourd'hui, l'économie de la Russie représente quelque chose comme 1,7% du PIB mondial. Il y a une asymétrie absolument béante entre la capacité des pays occidentaux, et en particulier des États-Unis, d'agir sur la Russie et la capacité de la Russie d'agir sur ses économies. Donc il y aura des mesures de rétorsion qui seront prises, mais elles seront d'ordre très limité.
Julien Vercueil, professeur d'économie à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, qui publiera d'ailleurs en septembre prochain un nouveau livre intitulé « Économie politique de la Russie », justement. Emmanuel Macron doit s'entretenir aujourd'hui avec Vladimir Poutine à propos d'Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien en grève de la faim depuis presque 3 mois dans une prison russe. Ce matin, l'Union européenne demande à la Russie de fournir un traitement médical approprié à Sentsov, dont l'état de santé se détériore rapidement. Opposant à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, il a été condamné à 20 ans de camp pour terrorisme et trafic d'armes à l'issue d'un procès qualifié de stalinien par Amnesty International. Comme le rouble russe, la livre turque dégringole. Elle a perdu ce matin plus de 7% de sa valeur face au dollar sur fond, là également, de crise diplomatique et économique avec les États-Unis. Aux États-Unis, justement, le vice-président Mike Pence annonce la création d'une force de l'espace d'ici 2020. Il est temps, dit-il, de se préparer pour le prochain champ de bataille. Annonce faite hier soir lors d'un discours au Pentagone. L'administration Trump souhaite que cette force spatiale devienne en fait la 6e branche des forces armées américaines. Alors pourquoi Donald Trump lance-t-il maintenant cette fusée? Surtout pour des raisons de politique intérieur, alors qu'approche l'échéance des élections de mi-mandat, Philippe Migaud est spécialiste des questions de défense, directeur du Centre européen d'analyse stratégique.
Ce que fait Trump, c'est quoi ? C'est se situer dans la lignée de Kennedy avec sa New Frontier qui répondait avec le défi lunaire au défi spatial soviétique de Khrouchtchev. C'est situé dans la lignée de Ronald Reagan et de son initiative de défense stratégique, ce qu'on a appelé la guerre des étoiles, qui avait pour but de lancer un défi à l'Union soviétique. Oui. Ce que fait Trump, c'est quoi? C'est « Make America Great Again ». C'est signifier que les États-Unis dominent dans l'espace, et qu'ils entendent conserver leur suprématie. Et c'est donc un message direct au peuple américain, nous sommes les meilleurs, nous allons rester les meilleurs. Le problème, c'est qu'il vient quand même de parler de l'espace comme d'un nouveau champ de bataille, et que l'espace est censé être un espace non militarisé.
L'espace neutre, en fait, hein, c'est ce que dit un traité international de 1967. Les États-Unis violent ce traité?
Alors oui et non, parce qu'en fait, le traité de militarisation de l'espace de 1967 stipule simplement que vous n'avez pas le droit de déployer des armes de destruction massive en orbite. C'est tout. Pour le reste, vous pouvez déployer absolument tout ce que vous voulez. Comment fonctionne la technologie militaire américaine, la technologie américaine de toutes les armées modernes, c'est quoi? Vous avez des satellites de navigation, les fameux GPS, des satellites de communication, vous avez des satellites d'observation, et aucune armée moderne ne fonctionne plus si elle n'a plus tous ces satellites dans l'espace qui lui permettent de fonctionner. Donc dans les faits, l'espace est déjà militarisé, l'espace a cessé d'être neutre. Et puis, vous avez un certain nombre de technologies annexes, mais qui vont l'être de moins en moins, qui sont en train de se mettre en place dans l'espace. Et je pense notamment à un certain nombre de véhicules spatiaux qui circulent maintenant en orbite à Mach 28 régulièrement depuis plusieurs années, qui pourraient parfaitement contenir une arme, mais sur lesquels les États-Unis ne communiquent absolument pas.
Philippe Migaud, directeur du Centre européen d'analyse stratégique, il répondait aux questions de Simon Le Baron. Aux États-Unis encore, un juge de Washington a ordonné hier qu'un avion renvoyant chez elle au Salvador une mère et sa fille ayant demandé l'asile rebrousse chemin. Les deux migrantes avaient saisi la justice en effet pour contester leur expulsion. L'affaire était plaidée hier, mais entre-temps, le gouvernement américain avait décidé leur expulsion immédiate, une décision qualifiée de scandaleuse par le juge de Washington qui a donc ordonné le retour de la mère et sa fille. Si cela n'était pas le cas, il envisagerait des poursuites pour outrage à magistrat à l'encontre tout d'abord du ministre de la Justice, Jeff Sessions. C'est aujourd'hui que l'Assemblée générale des Nations unies doit approuver la nomination de Michelle Bachelet comme haut-commissaire aux droits de l'homme. L'ex-présidente du Chili succède au Jordanien Zeid Raad al-Hussein, qui s'est signalé par des propos vigoureux, qualifiant notamment de raciste le premier ministre hongrois Viktor Orban et de dangereux le président américain Donald Trump. En tout cas, aujourd'hui, donc, ce sera la confirmation de la nomination de Michelle Bachelet comme haut-commissaire aux droits de l'homme aux Nations unies. La compagnie aérienne low-cost Ryanair, confrontée à la plus grande grève de son histoire aujourd'hui, grève des pilotes suivie dans 5 pays au total, Allemagne, Belgique, Suède, Irlande et Pays-Bas. Des pilotes qui dénoncent le dumping social exercé par la compagnie irlandaise pour ce qui concerne les salaires, les contrats de travail et le recours à des contrats précaires. 400 vols Ryanair sont supprimés aujourd'hui, ce qui représente 17% du programme de vol de la compagnie aérienne. Des antiquités irakiennes pillées après la chute de Saddam Hussein en 2003 vont être restituées aujourd'hui à Londres à l'ambassadeur irakien. Des trésors archéologiques qui ont dormi 15 ans durant dans des armoires de la police britannique. L'identification précise de ces objets par des experts du British Museum a pu être effectuée grâce à une coïncidence en fait totalement inespérée. En ligne de Londres, Elodie Goulesque.
Il est souvent difficile d'identifier les caractéristiques exactes d'une antiquité, et pourtant cette fois-ci la chance a souri aux experts du British Museum de Londres. Les objets, au nombre de 8, avaient été saisis par la police en 2003 chez un vendeur londonien. Parmi eux, 3 cônes en terre cuite ou encore une amulette en marbre blanc représentant un taureau et datant du début du 3e millénaire avant notre ère. Faute de papier d'identification, les précieux biens sont restés dans les locaux de la police avant d'être envoyés cette année au British Museum pour analyse. Et c'est là que la magie a opéré. L'un des experts travaillait à ce moment-là sur un site archéologique découvert par des équipes françaises dans les années 1920 au sud de l'Irak et qui, comme de nombreux autres, a été pillé après la chute du régime de Saddam Hussein en 2003. Mais les pilleurs ont laissé des traces derrière eux et jeté certains objets, dont des cônes identiques à ceux retrouvés par la police. Grâce à ça, l'équipe du British Museum a pu non seulement identifier le pays d'origine de ces objets, l'Irak donc, mais aussi le site sur lequel ils se trouvaient, à Tello, et même jusqu'au temple exact d'où ils ont été extraits. Ces cônes portent le nom du roi qui les a fait faire, ainsi que le nom de la divinité honorée à travers eux, des objets qui vont être restitués aujourd'hui même à l'ambassadeur d'Irak au Royaume-Uni, avant de trouver une place sous leur nouveau toit, au musée de Bagdad.
La correspondance à Londres signée Élodie Goulesque. Le musicien Jean-Michel Jarre saisit la Cour européenne des droits de l'homme après une décision de la justice française qui le prive de l'héritage de son père qui n'est autre que Maurice Jarre, bien sûr lauréat de 3 Oscars pour la musique des films Laurence d'Arabie, Le Docteur Jivago ou encore La Route des Indes. Il faut dire que la Cour de cassation en septembre 2017 avait décidé dans une affaire présentant de nombreuses analogies avec celle qui concerne l'héritage de Johnny Hallyday de déshériter Jean-Michel Jarre et sa sœur, sachant que leur père avait organisé sa succession selon le droit californien, c'est-à-dire qu'il avait légué tous ses biens à sa dernière épouse américaine. Donc Jean-Michel Jarre saisit pour cela la Cour européenne des droits de l'homme. Le temps se calme. Aujourd'hui, avec globalement une alternance d'éclaircies de nuages, le soleil revient en force dans le sud. Les températures maximales afficheront 19 à 24 degrés sur la moitié nord, 23 à 26 en général au sud, jusqu'à 32 degrés sur les régions méditerranéennes. Édition préparée avec Yacine Bouzard. Vous retrouverez tout à l'heure pour le journal de 18h Benoît Bouscarel. Excellent après-midi à tous.